Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Stéphane Jeunesse, Stéphanie Roque, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres.
L'événement, c'est la Coupe du Monde de football. Après leur victoire face à l'Australie, les Bleus espèrent confirmer cet après-midi contre le Danemark.
Un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Nice cette nuit. Et top départ pour les marchés de Noël. Le sapin de la place Kléber de Strasbourg s'est illuminé hier soir. La magie de Noël parasitée cette année par l'inflation galopante.
La matinale week-end.
On démarre évidemment par la Coupe du Monde. Ce matin, deuxième match pour l'équipe de France dans ce mondial au programme France-Danemark, donc aujourd'hui.
Avec un objectif, la qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire suffirait face au Danemark. On va aller prendre le pouls de cette équipe avec vous, Fabrice Hawkins. Vous êtes en direct de Doha pour RMC. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui se passe dans le camp de base de l'équipe de France? Quel est le programme à quelques heures de ce match capital?
Eh bien, les Bleus sont en train de petit déjeuner tranquillement en ce moment même. Séance vidéo pour l'équipe de France dans leur camp de base dans la foulée. Et puis, Didier Deschamps va de nouveau insister évidemment sur ce point tactique, sur les points tactiques travaillés à l'entraînement cette semaine. Les joueurs vont avoir le temps d'assimiler toutes ces consignes pendant le déjeuner et la sieste. Au réveil, une petite collation, la causerie de Didier Deschamps au cours de laquelle il va donner la composition d'équipe. Puis, départ au stade entre 14h et 15h, heure française.
Alors cette composition d'équipe, justement Fabrice, quelle est-elle? Quelles sont les informations dont vous disposez?
Didier Deschamps ne devrait pas toucher à son attaque flamboyante de mardi dernier contre l'Australie. Giroud, Mbappé et Dembélé. En revanche, il y aura du changement derrière. Raphaël Varane est attendu en défense centrale. Le vice-capitaine des Bleus devrait jouer à la place d'Ibrahima Konaté et donc faire son grand retour. Des ajustements aussi dans les couloirs. Un Hernandez pour en remplacer un autre à gauche puisque Théo va prendre la place de Lucas blessé mardi dernier. À droite, Didier Deschamps va reformer le couloir du FC Barcelone puisque c'est Jules Koundé qui est pressenti pour jouer derrière Ousmane Dembélé. Benjamin Pavard devrait donc commencer sur le banc.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins. France-Danemark, c'est à suivre à partir de 17h sur RMC. Les Français qui s'apprêtent à affronter une équipe danoise particulièrement véhémente sur la question des droits humains. Les Danois avaient porté un t-shirt noir pendant l'échauffement face à la Tunisie. Le président de la Fédération danoise a même menacé de quitter la FIFA si rien ne changeait. Mais sur le terrain, pour le moment, le Danemark n'a pas complètement rassuré ses supporters. Léna Marjac.
Une entame de compétition moyenne avec un match nul face à la Tunisie. L'impression que les Danois n'avaient pas la tête à ça. Et la raison, ils n'ont pas pu exprimer leurs revendications. Interdiction de porter le brassard One Love aux couleurs arc-en-ciel en match et un t-shirt droit de l'homme pour tous à l'entraînement. Kasper Hjulmand, le sélectionneur, ne veut pas lier ce mauvais match à cela.
Tout cela ne joue pas sur nos performances. En arrivant ici, on s'est dit que nous devions nous concentrer sur le football. C'est ce qu'on essaye de faire et que c'est à d'autres personnes de continuer ce travail.
Face à la Tunisie, l'ex-première ministre danoise était en tribune avec une robe aux manches arc-en-ciel et il y a trois jours, c'est le président de la Fédération danoise, Jacob Jensen, qui a pris la parole en conférence de presse énervé contre la FIFA.
Je suis extrêmement déçu. La FIFA considère le brassard comme une déclaration politique. Pour nous, ce n'est pas le cas. Ils mettent en avant un droit universel.
Cet après-midi, les Danois pourraient suivre les Allemands qui ont protesté publiquement lors de leur premier match en se couvrant la bouche sur la photo d'équipe.
Et puis, il y a un autre Français qui brille lors de cette Coupe du Monde. C'est Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
Il est l'auteur de l'exploit de ce début de mondial. Hervé Renard, connu pour ses causeries désormais mythiques, est venu à bout avec son équipe de la grande équipe d'Argentine. Mais pas question pour le Français de s'enflammer à quelques heures du match Arabie Saoudite-Pologne.
We are still the lowest team of this group.
Nous sommes toujours l'équipe la plus faible du groupe. L'Argentine n'était qu'un premier match, rien n'a changé. Nous gardons notre humilité, mais il n'y a pas de limite. Notre objectif reste le même, se qualifier. Nous devons croire en nous, c'est le plus important.
We always have to believe in ourselves.
La Pologne du grand Robert Lewandowski. Alors est-ce que l'Arabie Saoudite est capable de rééditer son exploit? Réponse des 13h, match à suivre en direct sur RMC.
Et autre question, est-ce que vous voyez les Bleus se qualifier pour les huitièmes dès ce soir 17h? Réponse avec vous au 32-16 et avec Jean Rességuier et Jérôme Roten tout à l'heure à 8h40. Pour le moment, 8h04. Le reste de l'actualité, c'est l'information de la nuit. Stéphane Genest, un mort dans l'incendie d'un immeuble à Nice.
Une personne grièvement blessée également. Bonjour Martin Cadoret.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce drame?
Oui, il est 22h lorsque les pompiers reçoivent plusieurs appels concernant un violent feu d'appartement dans le nord de la ville. 80 pompiers sont mobilisés. Ils commencent par évacuer les personnes qui se sont réfugiées sur leur balcon à cause de la fumée qui s'est répandue dans l'immeuble. Avant de mettre à l'abri l'ensemble des occupants, 180 personnes au total qui ont été accueillies dans un groupe scolaire situé à proximité. Au cours de la nuit, la moitié des locataires a pu regagner son logement une fois l'incendie maîtrisé. Au total, l'incendie a fait un mort et quatre blessés à cause des fumées. L'un des blessés est en urgence absolue. L'option d'un incendie volontaire, la piste d'un incendie volontaire n'est pas écartée, expliquait hier soir le maire Christian Estrosi. Selon nos confrères de France 3, l'appartement d'où est parti l'incendie était très encombré. Son occupant posait des problèmes au sein du voisinage au point que deux mains courantes auraient été déposées contre lui.
Les dernières précisions signées Martin Caderet pour RMC.
Encore une nuit agitée à l'Assemblée nationale avec en point d'orgue l'activation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Elisabeth Borne.
Sixième fois en un mois que la première ministre engage la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de budget de la sécurité sociale en nouvelle lecture. La France insoumise a immédiatement déposé une nouvelle motion de censure. Le mécontentement également des motards aujourd'hui, puisque des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays contre l'obligation du contrôle technique pour leurs deux roues. Didier Renoux est le délégué général de la Fédération nationale des motards en colère.
Au moment où il y a eu la mise en place du contrôle technique pour les voitures, on identifiait dans 17% des tués en voiture une cause technique. Dans la moto, ce chiffre descend à 0,3%. Pourquoi ? Parce que l'usager de deux roues motorisées est parfaitement conscient de sa vulnérabilité puisqu'il n'a pas de carrosserie. Il est donc très attentif à l'état de sécurité de son véhicule. Et c'est corroboré par les dernières études de la Mutuelle des motards qui a étudié sur 18 000 contrats les accidents qui peuvent survenir. Et de la même façon, on est sur les mêmes pourcentages qui sont largement inférieurs à 1% sur l'année 2019 pour la Mutuelle des motards.
En bref, à l'international, 6 millions d'Ukrainiens privés d'électricité en raison de frappes russes. 15 personnes tuées également, dont des bombardements à Kherson. Et au Brésil, une attaque dans deux écoles a fait au moins 3 morts et 11 blessés.
RMC, il est 8h07.
Et tout à l'heure, Peggy Broche fera sa sieste devant un film de Noël. Parce que c'est dans moins d'un mois. 29 jours pour être précis et plusieurs villes se mettent petit à petit dans l'ambiance. Les traditionnels marchés de Noël.
Comme à Strasbourg, Mathieu, Peggy, capitale autoproclamée de Noël, qui s'est illuminé hier soir. Édition évidemment particulière cette année à Strasbourg comme ailleurs en raison notamment de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat. Mais est-ce que les exposants anticipent les clients qui sont évidemment moins dépensiers ? Eh bien, Amandine Réau est allée vérifier cela au marché de Noël du Jardin des Tuileries à Paris.
Qui dit marché de Noël dit vin chaud. Myriam et Patrick, venus de Vendée, se promènent entre les chalets, un verre à la main.
Tradition oblige.
Mais même pour ces traditions, ils surveillent leur porte-monnaie.
Le prix du vin chaud, 5 euros, c'est un peu cher, moi, je trouve.
La dernière fois qu'Emmanuelle, assistante maternelle en Corse, était venue au marché de Noël à Paris, elle s'était fait plaisir.
En décembre 2020, j'avais acheté une écharpe, il y avait des petites choses proposées, des huîtres. 200 euros, on les avait dépensées.
Mais cette année, à cause de l'inflation, le programme est plus sobre.
On se fait plaisir avec les yeux.
Derrière ces tablettes géantes de chocolat artisanal, Lydia l'observe, les clients ont changé de comportement.
Dès qu'ils voient le prix ou qu'ils mettent un morceau de chocolat sur la balance, des fois, ils me disent même pas au revoir, ils me laissent ma marchandise. Peut-être que c'est pas dans leur budget, mais qu'ils savent pas comment le dire, quoi.
Pour d'autres Noël, c'est sacré. Tamae est étudiante à l'école du Louvre.
J'ai acheté des boucles d'oreilles pour une amie pour son cadeau de Noël. Faut toujours se faire un peu plaisir, quoi.
Les artisans qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel pendant ces marchés de Noël misent sur les touristes étrangers. Eux ont tendance à dépenser sans compter.
Amandine Réau pour vous mettre dans l'ambiance de Noël et pour poursuivre dans cette ambiance de Noël. Mais partons à la neige. C'est l'heure de jouer, les amis. Risoul, 1850.
Eh oui, pendant une semaine pour 4
c'est
personnes. C'est ce qu'on vous offre là, avec les forfaits remontées mécaniques comprises, évidemment. On vous offre la totale, voilà le cadeau à gagner ce week-end. Inscrivez-vous dès maintenant pour pouvoir remporter ce séjour Risoul 1850. Il suffit d'appeler le 3216, la touche 4, 3216, la touche 4, ou vous envoyez un SMS, vous envoyez le mot matin au 73216, matin au 73216, bonne chance.
Allez-y, il paraît que la neige arrive, voire est déjà arrivé. Matin par SMS au 732-16. Bonne chance.
À suivre dans la matinale week-end.
Encore une nuit de tension à l'Assemblée. Elisabeth Borne appelle à mettre fin au pugilat dans l'hémicycle. C'est vrai qu'il y a eu des noms d'oiseaux, des invectives lors des débats cette semaine, notamment sur la réintégration des soignants non vaccinés. L'homme qui a mis le sujet sur la table est avec nous ce matin. Olivier Servat, député de Guyane, dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h12, soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC. Bonjour Olivier Servat.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'RMC.
Député de Guadeloupe, merci d'être avec nous, membre du groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. Des tensions à l'Assemblée toute la semaine et encore la nuit dernière. Motion de censure, nouvelle motion de censure déposée par la France Insoumise, rejetée. Et puis, nouveau article 49 alinéa 3 dégainé par Elisabeth Borne. Puis, nouveau dépôt de motion de censure à l'Assemblée. On a l'impression que les choses se répètent. C'est la sixième fois en un mois. Est-ce que vous êtes lassé, Olivier Serva, de ces débats qui sont en permanence percutés par des motions de censure et par des 49-3?
J'ai voté pour la première motion de censure de LFI. Symboliquement, pour dire qu'effectivement, nous ne sommes pas contents de la façon de procéder de ce gouvernement qui s'est engagé lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne à changer de méthode, à changer de logiciel, à faire plus de concertation. Au final, tu parles, ça décide tout seul et quand c'est pas content, ça passe par le 49-3. Donc, ça n'est pas satisfaisant. Bon, après, on sait que les motions de censure, pour qu'elles puissent passer, il faut qu'elles puissent avoir une coagulation des forces de l'opposition. Ça n'est jamais encore arrivé. Tant que les Républicains ne seront pas dans la danse, ça ne passera pas. Donc les autres, je n'y participe que très peu et je ne les vote pas. Mais j'ai voté quand même la première par symbole.
Bon, en tout cas, ce climat génère des tensions. On l'a vu. D'ailleurs, vous avez été au cœur d'une tension jeudi soir à l'Assemblée nationale. Voilà ce que dit hier soir Elisabeth Borne de cette semaine de tension.
Je vous regarde, chers collègues. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfaite, vous réjouie.
Cette semaine l'a montré, à partir de désaccords légitimes, nous pouvons basculer dans des jeux de rôle, voire des pugilats. Mais je suis convaincue que nous avons encore l'occasion, et je dirais même, chacun avec nos convictions, la volonté, de répondre à l'attente des Français et de faire de cette Assemblée l'épicentre du compromis.
Stop au pugilat, Olivier Serva.
Oui, ce sont des pompiers pyromanes. On pourrait parler de cette semaine. C'était la semaine aujourd'hui où il y avait effectivement la niche parlementaire de la France insoumise. Je ne parlerai pas de la constitutionnalisation du droit à l'IVG où Aurore Berger a tenté de court-circuiter celle de Mathilde Panot. Je ne parlerai pas de la corrida où il y a eu effectivement une volonté déjà d'obstruction en déposant un paquet d'amendements de la part de Renaissance. Et on pourrait parler effectivement de la... Effectivement, proposition de loi sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés, où nous étions majoritaires, où l'Assemblée nationale est majoritaire, où l'article 1 de rejet de finalement cette réintégration a été battu et que les oppositions ont montré leur capacité à s'entendre. Je rappelle, la France insoumise, l'IOT, Rassemblement national et les Républicains. Ils sont battus, les gens de la minorité relative, et ils n'acceptent pas ça. Donc ce sont des pompiers pyromanes, et il ne faut pas qu'ils s'étonnent, après avoir fait de l'obstruction. J'insiste quand ils disent « Ah oui, mais la France Insoumise a déposé 40 000 amendements sur les retraites ». Ce n'est pas la même histoire. Pourquoi ? Une niche parlementaire, c'est de 9h à minuit. Ça s'arrête après. Alors même que lorsqu'il s'agissait des retraites, on peut prolonger les débats et le gouvernement a la main. Sur
c'est ça qui a provoqué votre... J'ose même pas dire énervement, parce que vous le dites de façon tout à fait calme, mais en tout cas, vous en venez à des mots que certains ne veulent pas entendre au sein de l'hémicycle. Tu vas la fermer. Pourquoi vous prononcez ces mots ?
Ces mots, c'est le cri de souffrance d'un peuple. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Nous sommes des Français. Nous sommes des Français qui sont vaccinés à 40%. Ça, l'Hexagone a du mal à l'entendre, à le comprendre. Ils vont nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas vaccinés, etc. Ça, c'est un débat qui date depuis plusieurs années. La réalité, c'est qu'il y a des Français insuffisamment vaccinés. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les brûle ? Est-ce qu'on les jette aux orties ? Est-ce qu'on considère qu'ils ne sont plus Français ? Est-ce qu'on les dénaturalise ? Non. Il faut traiter. Et c'est là mon point de différence avec son gouvernement.
Votre invective, tu vas la fermer, vous ne la regrettez pas aujourd'hui ?
Non.
Avec 48 heures de recul ?
Non. C'est une expression, c'est un réflexe verbal. Je suis le porte-parole d'un peuple. Je suis un élu du peuple. Je traduis la souffrance de mon peuple. Je traduis le fait qu'il y ait... On me parle de pourcentage. Il y a que 500 personnes, qu'il y a 200 personnes. Ce sont chacun et chacune des hommes et des femmes faites de chair et d'os et de sang. On ne peut pas les traiter comme des moins que rien. D'autant plus que nous sommes dans des déserts médicaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se priver ne serait-ce que d'un seul orteil ou d'un seul doigt de soignant au chevet du malade.
Vous parliez d'Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, qui exigera des sanctions. Après vos mots, tu vas la fermer, vous accepterez la sanction ?
Ainsi soit-il, ça n'est pas ma préoccupation première. Nous sommes au travail. Nous sommes des élus du peuple et en ce sens, on est là pour défendre notre population qui souffre.
Olivier Serva, Raph nous appelle depuis Mâcon. Bonjour Raph.
Et bonjour tout le monde.
Vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette question de réintégrer les soignants non vaccinés. Pourquoi ?
Bah, simplement parce que voilà, c'est le côté médical et protecteur qui veut ça. Dans ce cas, les soignants qui veulent pas se faire vacciner, bah, s'ils ont des maladies ou quoi que ce soit, bah, ils mettent pas leurs gants en latex, ils mettent pas leur masque, ils mettent rien. En fait, c'est un moyen de protection supplémentaire. Je suis pas que pour le vaccin, mais je suis pas contre non plus. Par contre, quand on est dans le milieu médical, on va pour protéger les gens qui sont plus faibles. Moi, dans ma carrière, j'étais pompier de Paris. Quand il y a eu le H5N1, on n'a pas eu le choix, on nous a pas posé de questions, on nous a fait signer des papiers pour quoi on a servi de test pour les premiers vaccins. Bah, si on signait pas, on montait pas dans les camions. Et je peux vous dire qu'il y a personne qui a pas signé. Hein.
Tout ça, ça fait partie du métier quand voilà. On est soignant, ça va avec. Et en tant que patient aujourd'hui, Raph, vous êtes de l'autre côté, ça veut dire que vous refuseriez d'être soigné par un personnel qui n'est pas vacciné?
Ça dépend de la gravité de du besoin. Imaginons si j'ai une main qui est coupée, que le pompier il y a un qui est pas vacciné, il va falloir qu'il me sauve. Mais en revanche, si je vais chez le dentiste ou un truc un peu plus bénin, je pense que ouais, je serais capable de lui poser la question, est-ce que vous êtes vacciné ? Puis s'il n'est pas vacciné, lui dire, bah, moi je veux quelqu'un qui est vacciné pour me soigner.
Olivier Serva, je vous vois réagir.
Oui, ce que Raph dit est très important, j'aimerais prendre un petit temps, parce que c'est le cœur même de la discussion et finalement de la mécompréhension ou du quiproquo. J'ai une première question à poser à Raph, s'il me le permet. J'ai un cas pratique pour lui. Monsieur Raph, souhaitez-vous être soigné par quelqu'un qui est triplement, quadruplement vacciné, mais non testé au Covid, donc qui a pu rencontrer un paquet de gens et être porteur du Covid, ou souhaitez-vous être testé par quelqu'un qui n'est pas vacciné, mais qui a été testé toutes les 24 heures, et que lorsqu'il va vous toucher, vous savez qu'il est indemne du Covid? Moi, c'est la vraie question que j'aimerais poser à Raph. Et cette question, la réponse est incluse dans la proposition de loi qui a été portée la dernière fois par LFI.
Raph ?
Oui.
C'est compliqué de répondre ça et je pense que c'est une question piège. Mais non. Dans ce cas, la personne qui a dit, attendez.
C'est la question concrète, en fait, Raph, de ce qui était porté.
Il n'y a pas de piège, Raph. Il n'y a pas de piège dans cette question. J'aimerais simplement que vous m'y répondiez. Il n'y a vraiment pas de piège. Et je comprends bien votre réticence.
Avec la logique, ce serait la personne qui sera testée tous les jours. Mais avec l'illogique, ce sera qui c'est qui paye son test tous les jours? C'est encore nous, avec nos impôts, qui allons payer quelque chose qui coûte un peu cher parce que quelqu'un ne veut pas se plier aux règles.
Alors, Raph, vous posez une autre question qui mérite d'être débattue, c'est qui paye? Mais j'aimerais revenir...
Vous aviez la réponse apportée dans le texte que vous défendiez?
Oui, bien sûr.
Alors, qui paye?
C'est la collectivité, l'État.
Ah bah ouais.
Mais je reviens sur votre principale remarque en disant, c'est une problématique de vaccination. Monsieur Raph, non, on ne parle pas de vaccination dans ce texte. Et en fait, on a été intoxiqué pendant des jours, des semaines... par Renaissance en disant « Oui, mais ces gens-là n'aiment pas la science, remettent en cause le vaccin de Pasteur. » Mais pas du tout. Il y avait deux articles dans cette loi. Un, réintégration des soignants suspendus non vaccinés parce que ce sont des hommes et des femmes qui souffrent et qu'on a besoin de la concorde dans ce territoire et on a besoin qu'ils puissent être réintégrés et vivre. Deux, il y avait un protocole sanitaire strict, testé toutes les 24 heures. Et très clairement, de façon sanitaire, Raph a donné la réponse « Vaut mieux être soigné par quelqu'un qui est testé et on est sûr qu'il n'a pas le Covid. » Maintenant, il pose une question importante, c'est qui va payer ? Effectivement, c'est la collectivité. Je rappelle, monsieur Raph a dit qu'il était pompier. En Guadeloupe, aucun pompier n'a une obligation vaccinale et il continue à traiter les patients. Ça se passe très bien parce qu'il respecte les gestes barrières.
On voit bien la complexité dans les détails du débat et c'est aussi pour cela que chez nos voisins européens, eh bien, le sujet a été très compliqué à traiter. Au Royaume-Uni, en Belgique, en République tchèque, on a finalement renoncé à cette obligation vaccinale pour les soignants. L'Autriche a annulé cette obligation en juin dernier. L'Italie vient de réintégrer aussi ses soignants non vaccinés. Seule la France, la Grèce et la Hongrie maintiennent l'obligation vaccinale aujourd'hui. Merci Olivier Serva d'avoir été avec nous. Député de Guadeloupe, il est 8h21.
À suivre dans la matinale week-end.
Moon Boots et chocolat chaud en altitude, les pistes de ski ouvrent à Val Thorens dans moins d'une heure.
Avec une semaine de retard, faute de neige suffisante, comment les stations s'adaptent à ce réchauffement climatique? Enquête RMC dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Vous vous réveillé à l'écoute d'RMC, vous faites bien. C'est un temps calme aujourd'hui, Peggy Broch.
Oui, calme et sec. Alors, on a quand même du soleil aujourd'hui entre l'Alsace et le Sud-Est. D'ailleurs, beaucoup de grisailles. Et cet après-midi, on aura beaucoup de nuages sur toute la moitié nord du pays. Un peu plus de luminosité sous un ciel voilé entre le Sud-Ouest et le Massif central. Et ça restera beau entre les Alpes et la région PACA. Le tout sous des températures de saison de 8 à 10 à l'intérieur des terres, 12 à 14 un peu au-dessus sur les côtes et jusqu'à 19 près de la Méditerranée.
Merci Peggy. 8h30.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Stéphanie Roque, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres.
L'article 49.3, encore une fois, dégainé par la première ministre Elisabeth Borne cette nuit. Et l'hiver pourrait être délicat. Enedis remet une pièce dans la machine. Tout le monde pourra être concerné par des coupures d'électricité.
L'événement, c'est la Coupe du Monde de football et la France joue sa place en huitième de finale face au Danemark. Une victoire suffira pour les Bleus.
Et de 6-6 en un mois, sixième fois qu'Elisabeth Borne s'en remet à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget de la Sécurité sociale.
Et pour la deuxième nuit consécutive, la séance a été houleuse à l'Assemblée nationale et les échanges particulièrement tendus, Martin Cadoré.
Oui, c'est désormais monnaie courante à l'Assemblée. Une motion de censure déposée par la France Insoumise, motion rejetée, et dans la foulée, un 49.3 qui engage la responsabilité du gouvernement et permet de faire passer le texte d'un coup sans discuter les amendements. Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions. Voilà ce qu'a dit hier soir Elisabeth Borne. Point culminant de 48 heures de tension à l'Assemblée faite d'invectives. Jeudi déjà, Olivier Serva, député Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, avait lancé « Tu vas la fermer » à un député de la majorité. Puis hier, les macronistes ont tout fait pour empêcher le vote d'un texte insoumis sur la réintégration des soignants non vaccinés. Leurs armes, des suspensions de séance, des amendements intempestifs destinés à ralentir les débats. L'opposition furieuse jusque dans les rangs LR parle de déni de démocratie, juge inadmissible l'attitude de la majorité. Ces pratiques d'obstruction parlementaire seront au menu mardi matin d'une réunion entre la présidente de l'Assemblée et les présidents de groupe.
Les précisions de Martin Cadoré pour RMC. Merci Martin.
Vous avez sûrement rallumé le chauffage. Attention, Enedis avertit, tous les foyers sont susceptibles de subir des coupures d'électricité cet hiver.
Et cela en raison de l'activité du parc énergétique français, puisque près de la moitié des réacteurs nucléaires du pays sont encore à l'arrêt. Retard au démarrage qui aura évidemment des conséquences sur l'hiver. Avec un exemple concret, Kevin Gasser, le réacteur numéro 2 de la centrale de Flamanville en Normandie, n'a toujours pas redémarré.
Oui, la remise en marche de ce réacteur a été repoussée au 1er décembre après la détection d'un problème de vanne. Et ce n'est pas le seul retard. EDF avait annoncé le redémarrage de 11 réacteurs nucléaires avant la fin novembre, mais 5 sont déjà repoussés à décembre en raison de fissures inattendues dans les canalisations, justifie EDF, mais aussi du mouvement de grève qui a touché les centrales nucléaires en octobre. Conséquence de ces retards, le parc nucléaire, qui représente 70% de l'électricité en France, produit actuellement 33 gigawatts au lieu des 48 prévus par EDF. Alors le gouvernement français a déjà prévu d'importer de l'électricité d'Allemagne pour faire face au pic de consommation cet hiver. Mais si les retards persistent et en cas de vague de froid, des coupures de courant ne sont pas à exclure.
Et on en vient maintenant à ce gros coup de filet en Occitanie dans l'enquête sur des antennes 5G incendiées.
Et effectivement, 4 personnes mises en examen hier, soupçonnées d'avoir vandalisé ces antennes relais dans la région toulousaine. Des actes de vandalisme de ce type qui se multiplient et qui sont monnaie courante dans le pays. Les précisions signées Guillaume Biel, le chef du service police-justice de RMC.
Ils ont pour la plupart une trentaine d'années et font partie de la mouvance contestataire multiforme. Gilets jaunes, anti-vaccins, anti-pass sanitaire. 3 femmes et un homme interrogés par les gendarmes pendant 96 heures à l'issue d'une minutieuse enquête pour les retrouver. C'est à partir d'une voiture filmée par une caméra de vidéosurveillance que les enquêteurs ont de fil en aiguille identifié les suspects. Ces activistes sont soupçonnés d'avoir détruit par incendie une antenne 5G le 30 mars dernier à Carbonne au sud de Toulouse. Ils auraient également mis le feu à des radars automatiques avec à chaque fois une même signature. Le peuple inscrit sur le sol. En garde à vue, les suspects ont notamment reconnu avoir participé à la destruction de l'antenne 5G. Présentés à un juge d'instruction de Toulouse, ils ont tous les 4 été mis en examen et laissés libres sous contrôle judiciaire en attendant leur futur procès.
RMC 8h34.
RMC, le journal des sports.
C'est la Coupe du Monde. L'objectif 8e de finale. C'est aujourd'hui la France joue sa qualification face au Danemark.
Les Bleus face à leur bête noire, le Danemark reste sur 2 victoires contre la France cette année. Une équipe danoise difficile à manœuvrer, Nicolas Pelletier.
Le constat du sélectionneur Didier Deschamps sur l'équipe danoise est clair.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères.
Des misères créées par la nouvelle bête noire des Bleus avec 2 défaites en 2 matchs cette année face aux Danois. Didier Deschamps compte bien s'appuyer sur ces rencontres pour inverser la tendance.
Évidemment, tout ce qu'il y a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité de changer de système et ça peut amener à des difficultés différentes.
Il faut remonter à l'Euro 2000 pour trouver trace d'une victoire française face aux Danois en compétition officielle. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, espère surtout corriger les petites erreurs du premier match contre l'Australie.
Ce sera un match décisif pour la qualification et on regarde un petit peu ce qui a été fait sur le premier match. Il y a beaucoup de travail à faire.
Que ça soit à l'Euro ou en Coupe du Monde, à chaque fois que les Bleus n'ont pas perdu face aux Danois, la France a gagné la compétition.
On verra Mathieu si la statistique se confirme cette année.
En tout cas, les supporters français seront présents pour donner de la voix dans le stade.
Ils seront environ 5000 à Doha cet après-midi pour vibrer avec l'équipe de France. Martin Bourdin les a croisés d'ailleurs, ces supporters, dans les rues. Et ils étaient en train de faire leurs dernières emplettes avant le match.
C'était le sésame qu'Olivier cherchait depuis quelques jours dans les rues de Doha.
Les Bleus !
Un petit tambour de 40 cm de diamètre, pas facile à trouver.
On a fait une heure et demie de recherche dans le souk avant que quelqu'un nous dise il y a un magasin de musique, ça s'appelle comme ça. On a tapé sur Google Maps, on était à côté.
Non, t'as pas été dernier.
On aurait pu être bien sûr beaucoup mieux, on a l'habitude de faire beaucoup mieux. Alors un instrument de musique, ça va aider. Ça va aider, on espère être un peu meilleur.
Depuis mercredi, ça discute beaucoup entre supporters français sur les réseaux sociaux par message. Le mot d'ordre de Toto, c'est de se regrouper une fois dans les tribunes.
Quitte à se coller un sur l'autre, tant pis, à pas respecter les sièges. Se grouper et se motiver entre nous, quoi. Mais après, c'est vrai que les Qataris sont spectateurs.
Alors pour former un vrai carré bleu, certains vont tenter de se faire de la place.
Faire le ménage, ouais, les décaler ou les monter. Ou leur dire tout simplement, suivez le mood et puis vous allez voir, ça va être marrant.
Mais ce soir, une nouvelle fois, les Français ne seront pas nombreux. Environ 5000 sur les 40 000 places disponibles dans le stade.
On fait quoi? On fait un chalalala entre 1000 personnes? Est-ce que c'est ça vraiment qui va pousser tout le stade? Je suis pas super optimiste.
Tout l'inverse de Toto.
Le premier match, c'était un essai. On va s'améliorer de jour en jour.
Cette fois, par exemple, les supporters français se sont donné rendez-vous en début d'après-midi pour partir ensemble vers le stade.
Bon, visiblement, ils seront prêts dès 17h pour aller au stade. Et puis, on le saura, nous aussi, à l'écoute d'RMC. Match à suivre en direct dans l'intégrale Coupe du Monde.
Et dans la foulée, 20h pour suivre l'Argentine, match quitte ou double.
Avec l'obligation de gagner face au Mexique après le revers cinglant, 2-1 contre l'Arabie Saoudite. L'attaquant argentin Lautaro Martinez avoue que ses coéquipiers étaient très touchés après la rencontre.
On était tristes, touchés après la défaite contre l'Arabie Saoudite. Mais on doit se relever. Dans un mondial, on n'a pas le temps. Le Mexique est un rival difficile et c'est comme une finale. C'est très important pour notre futur. On doit gagner car le prestige de notre maillot l'exige.
Dans les matchs de la soirée, l'Angleterre et les États-Unis n'ont pas su se départager 0-0. L'Iran s'est imposé 2-1 face au Pays de Galles. Et puis je vous donne le programme de la journée, Mathieu, quand même. Tunisie-Australie, ça sera à suivre sur RMC dès 11h. Pologne-Arabie Saoudite, 14h. France-Danemark, bien sûr, 17h. Et on finira cette journée avec Argentine-Mexique, donc à 20h.
RMC, la radio officielle de cette Coupe du Monde 2022. Dans 2-3 minutes, nous serons en direct de Doha avec Jean Rességuier et Jérôme Roten. Mais d'abord... D'abord, c'est l'heure d'un résultat que vous attendez. Qui partira à Risoul ?
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Alors, vous avez le nom de la gagnante ?
Ah, le tirage au sort. Comment vous savez que c'est une gagnante vous ?
Ah, je sais
c'est
tout,
gagnant. Mais non, c'est une gagnante. Vous avez raison ce matin. Elle s'appelle Florence. Bonjour Florence.
Bonjour Florence.
Oui, bonjour toute l'équipe.
Vous êtes dans le Morbihan, Florence ?
Oui.
Ça fait loin pour aller skier.
Bon, c'est pas grave.
Oh, ça, c'est pas grave.
Ah, voilà.
Vous allez partir quand même, Florence.
Bravo, Florence. Vous repartez avec ce séjour à Risoul 1850 pour une semaine, pour 4 personnes, avec les forfaits remontées mécaniques, compris évidemment 185 km de piste. Ça va être chouette, ça.
Super, merci beaucoup. Je suis trop contente.
Ski, surf?
Plutôt ski.
D'accord. Raclette ou vin chaud?
Les deux.
Ah, on est d'accord. J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez choisir.
Florence, vous avez bien fait de jouer ce matin. C'était la première fois que vous tentiez votre chance ?
Non, ça fait plusieurs fois, donc je suis trop contente parce que j'y croyais plus.
Comme quoi, il faut persévérer.
La persévérance paye. Et oui, vous avez raison. Merci d'être à l'écoute d'RMC, Florence.
Merci à vous.
On vous embrasse, vous nous enverrez une carte postale ?
Avec plaisir.
Bon week-end.
10 minutes chrono sur RMC avec Risoul 1850, station d'altitude. Risoul 1850, du grand ski, mais pas que. Sous le soleil des Alpes du Sud.
Est-ce qu'on peut se qualifier ce soir pour les huitièmes de finale? Quand je dis nous, l'équipe de France, évidemment, les Bleus, face au Danemark, 17h, 32-16 pour en parler avec vous. Et puis les enjeux, les stratégies, l'ambiance sur place. Jean Rességuier, Jérôme Roten depuis Doha, dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end. RMC, Coupe du monde de la FIFA 2022.
8h42 sur RMC France-Danemark. Le deuxième match des Bleus ce soir à 17h. Vous le vivrez bien sûr sur RMC. Bonjour Jérôme Roten.
Bonjour à tous.
Et bonjour Jean Rességuier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous tous les deux depuis Doha. Jean, c'est vous qui serez aux commentaires ce soir. Match quoi ? À double, à triple enjeu, gagner en confiance en battant le Danemark, se maintenir à la tête du groupe D et puis surtout tenter de se qualifier dès maintenant pour les huitièmes, Jean.
Bon, j'ai envie de vous dire gagner tout simplement,
oui.
Parce que gagner c'est le huitième de finale assuré, même si c'est une vieille connaissance, même si c'est un peu la nouvelle bête noire des Bleus. Hein, il reste sur deux victoires, notamment face à l'équipe de France en Ligue des Nations récemment, en juin et septembre dernier. En match officiel, les Bleus ne les ont jamais battus depuis l'Euro 2000. Après, vous cherchez des statistiques positives à chaque fois que vous n'avez pas perdu contre eux en 98. Et en 2018, vous avez fini champion du monde. Bref, il y a plein d'histoires à raconter autour de cette équipe du Danemark qui a ce faux pas contre la Tunisie qui leur donne un peu plus de pression et qui va les rendre très certainement plus pénibles à jouer. Et ça, bien évidemment, Deschamps en est conscient. Il faut surtout que ce soit les joueurs qui en soient conscients tout à l'heure au moment du coup d'envoi.
Écoutons-le d'ailleurs, Didier Deschamps, à propos de cette équipe du Danemark.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères. Beaucoup de misère. Donc c'est de faire en sorte qu'on inverse la tendance sans parler de revanche ou quoi que ce soit.
Elle nous a fait des misères, Jérôme Roten, sauf qu'elle a quand même perdu des points après son nul face à la Tunisie. Elle a aussi perdu son milieu, Thomas Denhalley.
Oui, c'est la vérité de ce premier match pour le Danemark. Ils ont eu du mal à rentrer dans la compétition. C'est vrai que le premier match est vraiment décevant contre la Tunisie. Ils se sont bien fait bouger. Après, pour parler de la France, Mathieu et Jeannot te l'a dit aussi. Je pense que de toute façon, l'objectif de la France est déjà de gagner avant de tirer des plans sur la comète. On est premier du groupe, on va finir là. Hein, le fait de gagner, on est qualifié. Voilà, c'est le plus important et à partir de là, il aura le temps de voir derrière, de faire une revue d'effectifs, de donner du temps de jeu à tout le monde parce que ça aussi c'est un paramètre qui est important dans la vie d'un groupe. C'est bien que tous les joueurs arrivent à quand même évoluer et à porter ce maillot. Ça, dans la façon de fonctionner du groupe, dans la façon de vivre au quotidien, on sait que les compétitions comme ça, elles sont longues quand même. Vous êtes enfermés entre vous pendant quasiment un mois si vous allez au bout. Donc non, pour tout ça, il y a pas à se poser de questions. Il faut gagner, il faut arrêter avec cette mauvaise série contre le Danemark.
Tout de même, les dernières infos sur la compo, les infos d'RMC Sport, on ne change rien à l'attaque, mais on va changer derrière parce que cette défense, Jérôme Roten, c'est toujours ce qu'il y a à muscler, à surveiller.
Oui, de toute façon, l'équipe de France, c'est pas parce qu'elle a gagné 4-1 le premier match que ça y est, on est redevenu les meilleurs du monde. Il y a des nations qui ont répondu présentes, il y en a qui ont été décevantes. Donc l'enjeu sur ce deuxième match, c'est de continuer à gagner et surtout à progresser. Il y a des axes d'amélioration, la défense en fait partie. C'est pour ça que Didier Deschamps, même si on connaît Didier, hein, il l'a pas forcément dit comme ça ouvertement en conf de presse, mais ses choix le confirment. C'est que oui, il a pas été content de ce que l'équipe a apporté en solidité. Donc il a changé Pavard, il a changé Konaté. Automatiquement Théo Hernandez devient titulaire parce que malheureusement Lucas est forfait. Donc déjà ça fait trois changements sur quatre sur les plans qu'il avait sur le premier match.
Il va
donc
falloir ça veut dire que voir ce que ça donne ce soir.
Exactement, et il y a ça et puis moi plus globalement, alors on peut toujours jeter la faute sur les défenseurs et dire oui, ils doivent s'améliorer. Oui, ils doivent s'améliorer, mais c'est plus le bloc équipe qui doit défendre ensemble et beaucoup mieux, et là-dessus, il va falloir qu'on s'inspire du Brésil.
Et puis, il y a un autre ingrédient qui, en plus, pose d'autant plus questions au Qatar que les tribunes sont parfois clairsemées. C'est les supporters. On ne le dit jamais assez, mais dans ce genre de grande compétition, ça compte énormément. Tiens, il y en a deux des supporters qui sont avec nous et qui sont pas très, très loin de vous, Jean Rességuier, Jérôme Rotten. Ce sont Sébastien et Taoufik. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez d'arriver au Qatar?
Hier matin, dans la nuit, à 3h du matin, ouais.
Ça va?
Ouais, c'est vrai, un peu dur, parce que là, en plus, la nuit, la soirée d'hier, dans la fan zone principale, a été assez rude, donc c'est un peu compliqué, là, ce matin.
Est-ce que vous serez au stade ce soir, j'imagine? Est-ce que vous voyez les Bleus se qualifier pour les huitièmes?
Oui, dans la douleur, je pense. Ça va être assez rude. Il va falloir mettre plus d'intensité, je pense, que contre le match contre les Australiens, parce que c'est un peu mou, je sais pas. C'était assez bizarre.
Taoufik.
Le score ne reflétait pas le...
Taoufik, vous êtes aussi avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous aussi. Ben, ça va bien. Vous aussi au Qatar pour soutenir les Bleus?
Ah non, c'est plutôt la Tunisie là.
Voilà, bien sûr.
Je suis au stade El Janoub, donc il y a une ambiance qui commence à monter là.
Oui.
Donc vous parlez de spectateurs là. Normalement là, ça va être comme d'habitude. Ça va être très tunisien ici. On voit pas beaucoup d'Australiens pour l'instant, mais oui, après il y a une attente énorme chez nous, donc on attend énormément ce match. Oui.
Tunisie, Australie à 11h tout à l'heure. On est bien d'accord, Jean Rességuier, si la France gagne ce soir, quel que soit le résultat du match Tunisie-Australie, ça ne change rien.
Non, huitième de finale, et puis après, il y aura la première place en jeu, avec le match contre la Tunisie et le match entre l'Australie et le Danemark. Mais 5000 supporters français, ils étaient 3500 contre l'Australie, 5000 ce soir, donc déjà c'est mieux. On rappelle qu'il y a 14000 AYA qui ont été validés ici à Doha, au Qatar. AYA, c'est une sorte de visa, hein, c'est l'ID avec les possesseurs de billets qui ont sur leur application leur identité, et ça leur a permis de rentrer sur le territoire qatarien. Donc du coup, ça veut dire quelque part que finalement il y a une vraie envie autour de cette équipe de France, et on le voit ce soir, ça se traduit avec de 3500 à 5000 supporters. On parlait tout à l'heure des Tunisiens, mais la Tunisie et les Tunisiens, c'est la communauté la plus forte ici à Doha et au Qatar. Et puis il y a une vraie attente par rapport aux Tunisiens. Donc on attend de voir ce que va donner ce troisième match entre la France et la Tunisie, parce que ça va être un match quand même assez sympathique à suivre. Il sera d'autant plus sympathique si la France bat ce soir le Danemark et que les Bleus ont déjà le billet en poche pour les huitièmes de finale.
Sébastien, vous êtes à Doha, vous avec votre sœur, votre beau-frère, votre fils de 16 ans. Vous êtes organisé pour vous regrouper entre supporters, faire masse ce soir dans les tribunes?
Oui, ça fait déjà. Enfin, moi, ma soeur, depuis une semaine, ils ont créé un groupe sur un réseau social. Voilà, en gros, style hier après-midi, on a fait barbecue à côté d'une piscine avec des supporters trouvés au hasard dans la rue. Donc, ma soeur et ses copines les ont gentiment invités à nous rejoindre. On était 30, 35 à peu près. Et donc, voilà, après, on s'est rejoints ensuite à la fan zone. Et cet après-midi, là, je pense que dès midi, 1h, ça va être rebelote. Hein. On repart, on se rejoint. On va faire un petit tour en ville et se rapprocher du stade tout doucement. Ouais.
Un bon petit programme avant le match.
Ouais.
Jérôme Rotten, il y a aussi ce stade, 974. On dit que c'est l'un des plus originaux de cette compétition. Pourquoi?
Pourquoi? C'est une bonne idée, parce que ce stade, c'est le nombre de conteneurs, hein, je crois. C'est
exactement
le centre de Jeannot.
Oui.
Voilà. Donc,
c'est aussi l'indicatif du Qatar, et il est situé, je crois, juste à côté de l'aéroport international de Doha.
C'est le premier que l'on voit quand on se pose à Doha. Moi, je suis allé faire un tour hier par curiosité, justement. J'aime bien faire le repérage 24 heures avant et puis faire les tests aussi pour qu'on n'ait pas de surprise sur RMC après le lendemain pour le commentaire du match. C'est tout à fait original, quoi. Les toilettes sont dans des conteneurs, les buvettes sont dans des conteneurs, les loges sont dans des conteneurs. Bref, vous arrivez, vous avez des colonnes de conteneurs et puis ensuite vous avez des conteneurs de couleurs. Alors l'avantage, si vous voulez, pour nous, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible, la clim sur place, et je sais de quoi je parle par rapport à la voix,
et oui.
C'est le seul stade qui ne sera pas climatisé. Donc il va faire 26 degrés, ressenti 26 degrés à 17h au moment du coup d'envoi. Donc ça va quand même être agréable. Et là, on va avoir vraiment le sentiment d'une Coupe du Monde réellement intéressante au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, et pas de se geler et d'être obligé de mettre un pull ou un blouson pour commenter un match dans une période qui reste quand même une période plutôt correcte au Qatar.
Ça va enfin démarrer côté ambiance. Oui.
Ouais, c'est pour ça que c'est un stade à part, parce que Jeannot l'a dit, c'est le seul qui est pas climatisé.
Et voilà, donc, exactement.
C'est vrai qu'on s'habitue. Et en plus, alors, est-ce que ça va être bon pour les Français ou pour les Danois? Mais il tombe sur la journée là, sur les derniers jours, ça va être la journée la plus chaude, hein, quand même. Donc, pas facile. Il y aura, je pense que le poids aussi de cette chaleur va peut-être peser aussi, et ça sera à l'équipe et aux joueurs qui s'en sortent le mieux physiquement. Mais, en tout cas, pour revenir sur les stades, et ça plus globalement, et Jeannot, je pense, va être d'accord avec moi. C'est quand même des très très jolis stades. Hier, j'ai eu la chance d'aller au stade de la finale. Il est fantastique, vraiment fantastique.
Ouais. Réponse ce soir.
Et puis l'ambiance. Juste un petit mot, Mathieu.
Oui, Jean.
Il va être démonté, ce stade. Il peut être démonté et reconstruit de la sorte. Il peut être démonté, reconstruit une fois, deux fois, trois fois. Il y a des projets, notamment la Tunisie, la Mauritanie. On parle aussi de l'Algérie. Enfin bref, il y aura la possibilité de retrouver ce stade-là grâce à ce concept avec les conteneurs, de le revoir reconstruit dans un pays ou dans plusieurs pays en Afrique.
Merci beaucoup, Jeannot Rességuier. On compte sur vous ce soir. Hein. Voix voilée ou pas, vous serez aux commentaires.
Tout
de
dépendra des joueurs.
France-Danemark à 17h. Jérôme, vous suivez ça d'un œil attentif, j'imagine. Et demain, nous serons avec Daniel Riello pour débriefer ce match. Bon match aussi à Sébastien et à Taoufik. Et à ce soir, bien sûr, 17h sur RMC, la radio officielle de cette Coupe du Monde 2022. Il est 8h53.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Ah bah oui, petit plaisir avant de se quitter, les amis. Le meilleur d'Arnaud Demanche. On parlait clim. Arnaud Demanche a parlé coupure d'électricité cette semaine. C'était savoureux.
On redoute ça parce que on est douillet. Voilà. Mais en Tchétchénie ou en Sibérie, ils le vivraient vachement mieux que nous, hein. Les mecs, ils se baignent sous la glace, ils boivent du gasoil au petit-déj, ils se battent à main nue avec des ours pour rigoler. Tu leur annonces qu'il y aura moins de chauffage. Ils réagissent pas comme nous, clairement. On devrait s'en inspirer. Alors, il y a bien une solution à laquelle personne n'a pensé, que je soumets à votre approbation. L'hibernation générale. C'est-à-dire que le gouvernement nous file un puissant sédatif. On dort tous du 1er janvier au 3 mars, ça consomme pas d'électricité et on est super en forme pour le reste de 2023. Personne n'a envie de bosser en janvier, non, autour de cette table. Apolline, sérieux, est-ce que vous avez envie d'interviewer Stanislas Guérini ou Sébastien Chenu un matin de janvier? Non, soyez honnête.
Un matin de janvier.
Mais oui, à chaque fois que j'entends parler d'ailleurs de possibles coupures d'électricité, je pense à ces pauvres gens qui sont au chevet d'un parent malade à l'hôpital. Écoute, papy, je voulais te dire un truc. Papy, il est mort? Papy? Ah putain, non. C'était le courant. T'inquiète pas, papy, ils ont basculé sur leur générateur. Donc, je voulais te dire, concernant l'héritage, moi je crois que c'est mieux si... Oh. Non mais là c'est chiant là à la fin. On sait pas qui va flancher le premier, si c'est le DF ou si c'est papy.
Arnaud Demanche, que vous retrouvez tous les matins 7h20, 8h20 dans Apolline Matin, et le samedi et le dimanche pour le meilleur de la semaine. Allez, dans un instant, toute votre météo, toute votre info. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.